Nous sommes invités maintenant à ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 8. Et nous lirons les versets de 26 à 28. Personnellement, je vous lirai ces passages dans la Bible en français courant. J'ai beaucoup à dire et à juger à votre sujet, mais j'annonce au monde seulement ce que j'ai appris de celui qui m'a envoyé, et lui, il dit la vérité. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit alors, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous reconnaîtrez que je suis qui je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien par moi-même, je dis seulement ce que le Père m'a enseigné. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Maintenant, je vais laisser la place à notre pasteur adjoint, Stéphane Caris, qui va donc nous introduire dans l'écoute de la parole de Dieu.
Eh bien, je vous salue tous, très fraternellement, Jésus. Je suis quelque peu impressionné par la communauté réunie, et c'est pour moi un privilège de pouvoir me tenir devant vous afin d'échanger quelques mots autour de la parole de Dieu. Nous vivons dans une époque troublée, une époque dans laquelle la spiritualité, la foi, les conceptions relatives à Dieu sont multiples. Nous sommes au courant de ce qui se passe au Moyen-Orient avec Daesh, qui a une conception toute particulière de Dieu et qui souhaite imposer cette conception-là à ceux qui les entourent. Je pense que nous avons un message extraordinaire. La révélation que Dieu nous fait dans sa parole est magnifique. Et ça vaut le coup de la vivre, de l'assimiler et de pouvoir rayonner cela autour de nous. Alors dans le monde, il y a plusieurs manières de représenter sa puissance et sa richesse. Et l'une de ces manières, c'est la construction de grands bâtiments, des gratte-ciels. Plus le bâtiment va être grand, imposant, plus il va y avoir d'étages, et plus on pourra se dire que le propriétaire est riche, puissant, reconnu. En 2013, le One World Trade Center, qui a fait tellement parler de lui, deviendra la plus haute tour jamais construite sur le territoire américain. Elle n'arrivera pas malgré tout dans le top 10 des plus hautes tours mondiales. Les gratte-ciels en construction à Shanghai et à Séoul seront bientôt proclamés les plus hauts du monde. Cette tour va faire près de 500 mètres de haut. Et pourtant, elle ne sera même pas dans le top 10 mondial. Il y a des grandes villes comme Shenzhen, Wuhan, Tianjin qui prendront le relais. Nous aussi, nous avons un grand Dieu qui est élevé, très élevé, plus haut que ces gratte-ciels-là. Et c'est confortable de se dire que nous croyons en un Dieu grand et majestueux. Je vous invite à prendre avec moi Ésaïe chapitre 6. Et nous lisons à partir du premier verset. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Waouh ! Notre Dieu n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas ? Il règne sur l'univers. Il n'est pas limité. D'ailleurs, la définition que nous avons, nous, dans nos croyances fondamentales est la suivante. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes co-éternelles. Dieu est immortel, omnipotent, omniscient, souverain et omniprésent. Il est infini et dépasse ta compréhension humaine. Cependant, connu au travers de sa propre révélation, il est à jamais digne d'être révéré, adoré et servi par toute la création. Gloire à Dieu, c'est magnifique. Ce texte que nous venons de lire, c'est la vision inaugurale d'Ésaïe, le prophète. Notre croyance fondamentale s'appuie sur plusieurs passages de la Bible et ces versets d'Ésaïe illustrent une partie du message de ce texte. Ici, le thème principal que nous pouvons faire ressortir donc de ces versets, c'est que la sainteté de Dieu est incontournable. Sa majesté est inouïe. Nous avons dans ce passage la présentation de celui devant lequel toutes les autorités humaines doivent s'incliner. Il ne s'agit pas ici d'une statuette, d'un monument devant lequel nous devons rendre hommage. Non, il s'agit du Dieu vivant, le Très-Haut, celui qui peut compter les étoiles, celui qui peut compter le nombre de cheveux que nous avons sur la tête, celui qui est assis sur un trône très élevé, si élevé que rien ni personne ne peut le surmonter. Les pans de sa robe, signe de royauté et de sa majesté, remplissent le temple. Cela nous assure sur le fait que le Seigneur peut par conséquent voir tout ce qui se passe dans l'univers. Le psaume 102, verset 20 nous dit « Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux l'Éternel regarde sur la terre. » C'est réconfortant. Nous savons que nous avons un Dieu qui est si grand et si puissant que nous pouvons compter sur lui. Même les créatures qui n'ont jamais péché, qui sont dans sa présence, doivent, avant de voler, se couvrir la face et se couvrir les pieds. Et durant cette séquence, les séraphins qui dégagent une puissance extraordinaire ne se parlent pas, mais ils crient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Ce spectacle est ineffable. Nous avons le sentiment d'être petits face à un Dieu qui remplit tout l'espace, face à tous ces cris d'adoration qui font trembler les portes du temple. Et pourtant, ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir à un autre visage de Dieu. Un portrait peut-être moins attendu, mais tout aussi réel. Pour ce faire, on va prendre un autre passage ensemble. Un roi 19, versets 8 à 13. Alors bien sûr, on se rappelle de cet épisode. Juste avant, au Mont Carmel, il y a eu un challenge. Ésaïe a convoqué Israël et a mis au défi les prophètes de Baal de faire le feu descendre du ciel pour consommer un sacrifice. Les prophètes de Baal ont fait toute leur cérémonie, ça n'a pas marché, et quand Élie a prié, à ce moment-là, le feu est descendu du ciel. Le peuple a à ce moment-là reconnu que l'Éternel était le vrai Dieu. Élie a exécuté tous les prophètes de Baal et suite à cela, il fut menacé de mort par Jézabel. De guerre lasse, il s'enfuit et il arriva à la montagne de Dieu, au mont Horeb. Donc nous lisons, verset 8, « Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Sur le mont Carmel, nous avons affaire à un grand Élie, un leader spirituel, le sauveur d'Israël par sa foi et sa fidélité à Dieu. Au mont Horeb, c'est un Élie qui est défaitiste, qui est déçu, qui est faible. Et lorsque Dieu l'appelle à se tenir devant lui, Dieu n'est présent ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Dieu est présent dans un murmure doux et léger. Littéralement, on pourrait traduire aussi par « Dieu est présent dans un bref son de silence, un murmure, quelque chose d'à peine audible. » Nous comprenons ici que Dieu n'est pas toujours à l'œuvre dans des circonstances puissantes et impressionnantes. Il peut également être présent dans le silence. Le Dieu que nous aimons et que nous adorons, le Créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau, n'est pas que transcendant. Il est aussi doux et léger. Et j'irai même plus loin. Il accepte de subir sans résister. Nous croyons que Dieu, le Fils éternel, s'est incarné en Jésus-Christ. Et qu'à travers Jésus-Christ, Dieu révèle son caractère. Devant cette affirmation, on pourrait, à mon avis, se poser plusieurs questions. Par exemple, pourquoi a-t-il fallu que Dieu révèle son caractère? Cette révélation-là, quelle est son essence? Pour apporter des éléments à ces questions, nous arrivons au texte que nous avons lu tout à l'heure, Jean chapitre 8, versets 26 à 28. On va prendre ce texte encore. Donc Jean chapitre 8. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Au verset 26 ici, le Seigneur semble expliquer qu'il est en désaccord avec les pharisiens. Ces derniers ne croient pas en lui. Pour eux, Jésus n'est pas le Messie. Il n'est pas l'envoyé de Dieu, loin. Jésus va déclarer plus haut dans le texte qu'ils mourront dans leur péché tant qu'ils ne croiront pas en lui. Tant qu'ils ne croiront pas que Jésus est Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 24. Et les pharisiens, entre autres, n'acceptaient pas le fait que Dieu, en la personne de Jésus, puisse, par exemple, éprouver du respect et de la compassion pour une femme adultère. Dans le texte de Jean, c'est la péricope qui précède. Comment le Messie peut-il avoir compassion d'une femme adultère? Une femme prise en flagrant délit. Dieu, a priori, aurait dû systématiquement se lever et se défendre et se faire respecter, à plus forte raison, dans son temple. Or, Jésus déclare sans détour qu'il a été envoyé par le Père pour lui rendre témoignage. Ses paroles et ses actes sont ceux qu'il a entendus du Père, mais ils ne comprennent toujours pas. Alors Jésus leur dit, verset 28, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis ou qui je suis ou que je suis. Le je suis ici est un attribut de Dieu. Je suis, ça veut dire que j'existe par moi-même. Moi, si je me tiens devant vous, c'est parce que je suis descendant d'Adam. Lui a été créé, et moi, par procréation, je suis là. Je n'ai pas de vie par moi-même. Je n'existe pas par moi-même. Mais Jésus-Christ est en train de dire ici qu'il peut vivre par lui-même. Et c'est d'ailleurs la même expression que nous retrouvons dans Exode 3, verset 14. « Je suis celui qui est », selon les traductions. Nous lisons dans Jésus-Christ, d'Ellen White, à la page 766, « L'homme a été trompé par les sophismes de Satan. Il ne connaissait pas la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Une possibilité subsistait, lui faire connaître cet amour. On était en droit d'espérer qu'en contemplant le caractère divin, l'homme serait attiré vers lui. » Nous avons vu tout à l'heure que Dieu pouvait être transcendant, tout-puissant, omnipotent. Mais nous, pauvres terriens, parfois les choses peuvent être très difficiles. Nous pouvons connaître des défaites, des trahisons, des craintes, des peurs. Nous pouvons être déstabilisés. Alors c'est bien de savoir que Dieu est tout-puissant et qu'il règne là-haut. Mais nous devons aussi garder à l'esprit que Dieu s'est fait faible, fragile. Dieu a accepté de subir pour nous. Dieu sait ce que nous pouvons vivre. Lorsque nous sommes malades, par exemple, on peut présenter notre situation à des proches, à des amis, qui vont comprendre, mais qui ne pourront jamais vivre ce que nous vivons. Lorsque nous sommes malades, nous sommes seuls. Mais Jésus-Christ sait exactement ce que nous vivons. Le Dieu que nous servons est capable de ressentir notre besoin. Notre Dieu est extraordinaire. Il n'est pas comme les dieux qui sont aimés dans le monde. C'est un Dieu qui s'est fait faible pour nous sauver. À la croix, toutes les créatures intelligentes peuvent contempler plus parfaitement le caractère de Dieu, dont l'essence est l'amour, la miséricorde, le don de soi. Dieu s'est fait défaite pour que moi je sois victorieux. Dieu a accepté d'être maudit pour que moi je puisse être béni pour l'éternité. Il est celui qui accepte d'être crucifié pour que je puisse être sauvé. Chers amis, les hommes rêvent de s'élever afin d'exalter leur puissance, leur pouvoir. Or, notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, a été élevé à la croix et devant tout l'univers pour présenter le caractère de Dieu, son amour pour nous. Mon appel, c'est que nous puissions toujours garder à l'esprit que notre Dieu sait ce que nous vivons, que nous pouvons compter sur lui. La victoire que nous avons est une victoire pour défendre son caractère, est une victoire pour manifester au monde et aux hommes que Dieu est amour, qu'il nous sauve, qu'il revient bientôt, qu'il revient nous chercher, et que nous serons pour toujours à ses côtés. Que le Seigneur nous bénisse ainsi et qu'il nous remplisse de sa paix et de sa joie. Amen.